Christophe Fiat. Vive maman!
De baiser, je la mange.
Vive maman!
Elle est notre bon ange!
En France, sous le Second Empire, à une époque où beaucoup d'enfants travaillent 12 heures par jour dans les usines et les ateliers de confection et les mines au lieu d'aller à l'école, une vieille dame écrit des livres pour la jeunesse. Ils sont publiés dans la Bibliothèque Rose et ils sont vendus dans les gares. Les gens les achètent pour les voyages en train qui sont pénibles et longs en raison de l'inconfort des wagons. Ça sent mauvais, il y a beaucoup de bruit, les locomotives roulent au charbon. La vieille dame invente toutes sortes de personnages comme...
Le général Dourakine.
Gribouille.
François le Bossu.
Mais surtout, Sophie.
Qui ?
Sophie, la première petite fille héroïne de littérature. Après, il y aura Alice, dans le roman Alice au pays des merveilles de l'écrivain anglais Lewis Carroll, et Zazie dans le métro de Raymond Queneau. La plupart des histoires de la vieille dame se passent dans des châteaux à la campagne avec des parcs où vivent des familles riches. Si elle sait qu'il y a des enfants pauvres, elle préfère raconter la vie quotidienne des petits bourgeois.
Pourquoi ?
Parce qu'elle est comtesse et qu'elle est plusieurs fois grand-mère et que c'est eux qu'elle connaît le mieux au travers de ses petits-enfants. D'ailleurs, à chaque livre, elle leur fait une dédicace.
À ma petite fille, Elisabeth Fresneau.
À mon petit-fils, Jacques de Pitray.
Etc. Et puis, elle vit aussi dans un château en Normandie, sur la route Paris-Cherbourg. Et c'est un monde qu'elle aime beaucoup. Aujourd'hui, il est 5 heures du matin. Et la comtesse écrit dans son lit, en pensant très fort à la petite Sophie. Elle trempe sa plume dans l'encrier avec tellement d'énergie qu'elle met de l'encre partout sur ses draps. Elle n'écrit bien que quand elle écrit vite. Et ses livres sont faits en moins d'un mois.
Pourquoi ?
Parce qu'elle aime la littérature plus que tout. Cette passion l'a prise très jeune, à 12 ans, quand elle a rencontré Madame de Staël, qui venait d'écrire un livre intitulé « De l'Allemagne ». Mais la comtesse a quand même attendu d'avoir 59 ans pour devenir écrivain à son tour. Le livre qu'elle est en train d'écrire, dans son lit, lui demande beaucoup d'efforts parce que c'est le dernier qu'elle consacre au personnage de Sophie. Après, elle arrête. Elle écrira sur un animal, un âne, qu'elle appellera Cadichon. Alors, à 7 minutes précises, la comtesse se demande si Sophie n'est pas la petite fille qu'elle a été, ou plutôt la petite fille qu'elle aurait voulu être. Elle hésite, c'est confus dans sa tête. Elle lui a donné son prénom, elle l'a fait naître le même jour qu'elle, un 19 juillet, et comme elle, elle a eu une enfance difficile, et comme elle, elle a souvent été seule. D'ailleurs, elle l'est toujours seule, parce qu'à son époque, elle signe ses livres de son nom, alors que toutes les autres femmes prennent des noms d'emprunt masculins, des pseudonymes. Par exemple, il y a Aurore Dupin, baronne du Devant, qui signe George Sand, et Marie Dagout, qui signe Daniel Stern, et l'anglaise Mary Evans, qui signe George Eliot. La comtesse se moque de tout cela. Ce qu'elle veut, c'est être elle-même et être libre. Oui, la comtesse, dont le nom de jeune fille est Sophie Rostopchine, signe toujours « Comtesse de Ségur, née Rostopchine ». Ségur, comme son mari, Eugène de Ségur, et Rostopchine, comme son père, ex-gouverneur de la ville de Moscou. Mais que s'est-il passé quand la comtesse était petite ? Quel secret cache-t-elle ? La vérité, c'est que sa propre mère était cruelle et qu'elle en a beaucoup souffert. Oh. Née en Russie, à Saint-Pétersbourg, en 1799, sa famille vivait à Voronov, à 50 km de Moscou, dans un immense domaine de la taille d'une petite principauté qui comprenait plusieurs villages réunissant 8000 personnes sur lesquelles son père régnait. Mais alors qu'il avait supprimé les châtiments corporels et répugnait à ce que ses serfs lui baisent la main en signe de respect, sa femme imposait à ses enfants une éducation tyrannique et martiale. Elle les flagellait à coups de knout et leur mettait des fessées et elle les giflait à la première occasion. De plus, la comtesse et ses frères et sœurs vivaient dans des conditions spartiates. Été comme hiver, ils ne portaient que des vêtements simples et légers pour les habituer à supporter le froid. Et ils couchaient sur des lits où il n'y avait qu'une couverture et pas de matelas. Et pour édredon, ils mettaient des journaux. Ils faisaient tout, leur lit, s'habiller, ranger leur chambre. Et dans cette demeure où s'agitaient tant de serviteurs, ils devaient se servir eux-mêmes. De plus, ils devaient manger peu et ne jamais boire entre les repas. Ainsi, la comtesse était constamment affamée et assoiffée et elle volait souvent le pain des chevaux et lapait l'eau du chien dans les écuelles. Voilà. Sa mère, qui était insensible à la douleur physique des autres et indifférente aux émotions, régnait en maître absolu sur ses enfants et vouait à Dieu une adoration infinie. Et puis un jour, il se passe un événement incroyable. C'est la guerre. Napoléon et son armée marchent sur Moscou et le père de la comtesse ordonne l'incendie de la ville pour ne pas qu'elle tombe aux mains des Français. Et il brûle aussi sa maison et placarde ça à l'entrée du jardin.
Je mets de ma propre impulsion le feu à ma maison, afin qu'elle ne tombe pas en votre pouvoir. Ici, vous ne trouverez que des cendres. 2 octobre 1812.
Alors le comte est traité en héros par le tsar, mais ça ne dure pas. Les moscovites qui ont tout perdu dans l'embrasement de leur ville détruite aux deux tiers sont en colère contre lui et il doit s'exiler. Comme Napoléon a abdiqué et que les Russes ne sont plus des ennemis de la France, toute la famille Rostopchine va se réfugier à Paris. C'est pour ça que bien des années plus tard, la comtesse a besoin de se confier et elle se projette dans le personnage de Sophie. Un jour, elle a fait le portrait de la petite fille. Écoutez attentivement. Peut-être que la comtesse l'a écrit en se souvenant d'elle-même au même âge.
Sophie a une bonne grosse figure bien fraîche, bien gaie avec de très beaux yeux gris.
Sophie a un nez retroussé et un peu gros.
Sophie a une bouche grande et toujours prête à rire.
Sophie a des cheveux blonds coupés courts comme ceux d'un garçon.
Sophie porte souvent une robe en percale blanche décolletée et à manches courtes et des bas un peu épais et des souliers de peau noire.
Mais jamais de chapeau, ni de gants, parce que sa maman pense qu'il est bon de s'habituer au soleil, à la pluie, au vent et au froid.
Bref, Sophie n'est pas jolie et pas très élégante. Mais comme la comtesse ne veut pas effrayer ses lecteurs et ses lectrices avec des histoires violentes de mères méchantes et indignes qui maltraitent leurs enfants, elle imagine que Sophie est une petite orpheline, élevée par une belle-mère méchante. Comme ça, elle évite de parler directement de sa propre mère et à la place, elle invente une femme qui l'a adoptée. Elle s'appelle Madame Fichini.
Fedora Fichini.
La comtesse va inventer d'autres personnages de femmes méchantes, comme
Madame Macmiche
dans Le Bon Petit Diable et
Madame Papovski
dans Le Général d'Ourakine. Mais Madame Fichini est spéciale. Elle ne fait pas le mal volontairement. Elle est jalouse de Sophie. C'est tout.
Vive maman !
De baisers, je la mange.
Vive maman !
Elle est notre bon ange.
Quand Sophie apparaît dans Les Petites Filles Modèles, elle a 7 ans. Elle est en compagnie de Madame Fichini, sa belle-mère, sur le perron du château de Fleurville. Elle est heureuse de retrouver ses petites amies et voisines, Camille et Madeleine. Madame Fichini a un air dur et elle dit d'une voix sévère à Sophie que si elle n'est pas sage, elle aura des coups de fouet. Camille et Madeleine sont accompagnées de Marguerite de Rosbourg. Le premier contact entre elle et Sophie se passe mal. Alors que Sophie veut sentir des roses, elle écrase un beau fraisier. Marguerite lui fait remarquer sa maladresse et Sophie la traite de petite sotte. S'ensuit une bousculade et Marguerite tombe. Alors Camille prend la défense de Marguerite et gifle Sophie qui crie pendant que Marguerite pleure. Camille a honte. Et Madeleine essaye d'apaiser tout le monde. Et les mamans arrivent. Madame de Fleurville, Madame de Rosbourg et Madame Fichini. Cette dernière donne aussitôt à Sophie une autre gifle. Puis Madame de Fleurville ordonne aux petites filles de monter dans leur chambre.
Montez dans vos chambres.
Et elle ajoute qu'après le dîner, elles seront privées de dessert. Sophie remercie Camille de n'avoir pas dit qu'elle avait poussé Marguerite. Sinon, sa belle-mère l'aurait fouettée jusqu'au sang. Elle leur dit aussi que si elle avait une maman comme les leurs, douce et bonne, ce serait plus facile.
Ce serait plus facile.
Et elle serait meilleure, mais que hélas...
Hélas.
Elle a peur de sa belle-mère qui ne lui dit jamais...
Jamais.
Ce qu'elle doit faire et qui la bat toujours.
Me bat toujours.
Puis un jour, c'est au tour de Sophie d'inviter ses amis dans son château. Quand Madame de Fleurville et Madame de Rosebourg et les petites filles arrivent en calèche découverte, elles sont accueillies par Madame Fichini sur le perron. Après leur avoir fait des politesses, elle demande à Madame de Fleurville une faveur. Est-ce qu'elle pourrait garder Sophie pendant quelques semaines ? Elle doit entreprendre un long voyage en Italie et elle ne peut emmener avec elle la petite fille. Puis les enfants jouent pendant 2 heures dans le parc et comme il fait très chaud, ils rentrent au château pour se désaltérer. Mais quelle n'est pas leur surprise quand Sophie refuse un verre d'eau et dit que sa belle-mère lui défend de boire entre les repas. Puis on entend Madame Fichini qui appelle Sophie.
Sophie.
Et qui la traite de voleuse. Elle l'accuse d'avoir bu le vin du carafon qui est dans son cabinet de toilette. Sophie répond que ce n'est pas elle. Mais la méchante femme, emportée par la colère, se précipite sur elle, la prend par l'oreille, l'entraîne dans sa chambre et la fouette jusqu'à ce que ses bras soient fatigués. Les pleurs de Sophie sont déchirants. Puis on voit Madame Fichini qui sort, rouge de colère, et on voit Sophie qui la suit, en sanglotant, et elles entrent toutes les deux dans le salon où les attendent Madame de Fleurville et Madame de Rosebourg. Les deux mamans sont très choquées. Puis au moment où Sophie va rejoindre ses amis, la méchante femme lui donne une dernière gifle et la petite fille trébuche. Après quoi, Madame Fichini s'affale sur le canapé et dit que ce qui vient de se passer lui donne, plus que jamais, le désir de se séparer de Sophie, mais qu'elle craint que ces dames ne veuillent plus la recevoir chez elle parce qu'elle est
insupportable.
Je ne redoute pas, Madame Fichini, la méchanceté de Sophie. Je suis bien sûre que je me ferai obéir d'elle sans difficulté.
Ainsi donc, vous voulez bien consentir à m'en débarrasser ? Je vous préviens que mon absence sera longue. Je ne reviendrai pas avant 2 ou 3 mois.
Ne vous inquiétez pas du temps que durera votre absence, madame. Je suis enchantée de vous rendre ce service.
Dieu, que vous êtes bonne, ma chère madame de Fleurville. Que je vous remercie. Ainsi, je puis faire mes préparatifs de voyage ?
Quand vous voudrez, madame.
Comment ? Je pourrais partir dans 3 jours ?
Demain, si vous voulez.
Quel bonheur que vous êtes donc aimable. Ainsi, je vous enverrai Sophie après-demain.
Très bien, madame. Je l'attendrai.
Chère dame, ne la gâtez pas. Corrigez-la sans pitié. Vous voyez comment il faut s'y prendre avec elle.
Puis elle décide finalement que Sophie partira le soir même. Ensuite s'engage une conversation entre petites filles où Sophie continue de nier qu'elle a bu le vin. En effet... La coupable est une petite paysanne qui s'est introduite au château. Mais Sophie est bonne, elle ne souhaite pas se venger. Alors Marguerite et Camille disent la vérité à Madame Fichini et Madame de Rosebourg prend leur défense et la méchante femme se sent quand même honteuse. Puis il est l'heure de rentrer au château de Fleurville et les mamans attendent les filles avec impatience pour quitter cette horrible maison. Alors tout le monde s'installe dans la calèche découverte et les chevaux trottent à vive allure. Un quart d'heure plus tard, Sophie saute à terre, légère comme une plume, comme elle est heureuse d'être dans cette nouvelle famille. Les semaines se succèdent, et Sophie passe par des moments de grande frayeur, parce qu'elle entend encore sa belle-mère lui hurler aux oreilles. C'est une obsession. Voilà. Il faut qu'elle l'oublie et qu'elle profite du calme et de la sérénité du château. Mais aussi qu'elle écoute Madame de Fleurville qui répète tous les jours qu'il faut demander au bon Dieu d'être sage et obéissante et bonne. Et que si ce n'est pas fait, il y a le cabinet de pénitence.
Qu'est-ce que c'est ?
Sophie va bientôt le savoir. Après avoir fait une indigestion de myrtilles et avoir mangé égoïstement des cerises destinées à faire des confitures pour une femme pauvre, Sophie est punie. Alors elle est enfermée dans une pièce étroite avec des murs nus peint en gris, dans laquelle il n'y a qu'une chaise en paille, une table en bois blanc avec un encrier et une plume, et un livre intitulé « Une journée du chrétien », dont elle doit recopier 10 fois les prières sur un cahier. Mais Sophie se rebelle et casse tout. Alors Madame de Fleurville entre, et Sophie lui tient tête. Puis Madame de Fleurville repart aussitôt. Et au moment où elle ferme la porte, Sophie se jette à ses genoux, en lui demandant pardon 2 fois.
Pardon, pardon.
Alors la maman prend la petite fille dans ses bras et lui dit avec douceur que le repentir expie bien des fautes. Et qu'elle a été coupable envers le bon Dieu d'abord, et envers elle ensuite. Et que le regret sincère que la petite fille éprouve méritera sans doute le pardon. Mais que ça ne l'affranchit pas de la punition et qu'elle ne retournera pas voir ses amis avant le lendemain soir.
Oh madame, chère madame, la punition me sera douce car elle est une expiation. Votre bonté me touche profondément, votre pardon est tout ce que je demande. Oh madame, j'ai été si méchante, si détestable, pourrez-vous me pardonner ?
Du fond du cœur, chère enfant, crois bien que je ne conserve aucun mauvais sentiment contre toi. Demande pardon au bon Dieu comme tu viens de me demander pardon à moi-même. Je vais t'envoyer à dîner. Tu écriras ensuite ce que je t'avais dit d'écrire et tu achèveras ta soirée en lisant un livre qu'on t'apportera tout à l'heure.
Maintenant, la bonne, qui s'appelle Elisa, apporte le dîner et Sophie lui dit que quand elle était avec sa belle-mère, elle se sentait encore plus méchante après les punitions. Tandis qu'avec Madame de Fleurville, elle a envie d'être meilleure parce qu'elle l'aime. Alors la bonne lui explique que sa belle-mère la punissait par caprice, alors que Madame de Fleurville la punit par devoir et pour son bien, et que ça, elle le sent. Un jour, Madame de Fleurville entre dans la chambre de Sophie et lui donne une lettre de sa belle-mère. La petite fille devient toute pâle et cache son visage dans ses mains et se retient de pleurer. Madame de Fleurville lui dit que c'est une bonne nouvelle qui arrive. En effet, sa belle-mère est toujours en Italie et elle s'est remariée à Naples avec un certain comte, Blagowski. Et une des conditions du contrat entre les époux est que Sophie n'habitera pas chez eux, en conséquence de quoi elle ira en pension, à moins qu'elle ne reste ici. Alors Sophie répond qu'elle préfère rester au château. Et Madame de Fleurville dit que dorénavant, elle la considérera comme sa fille. Et Sophie la remercie, mais en même temps elle s'inquiète parce qu'elle craint de causer des dépenses considérables. Alors Madame de Fleurville la rassure en lui disant que son père, à sa mort, a laissé une grande fortune. Le soir, il y a une fête en l'honneur de Sophie.
Bravo, vive Sophie.
Sophie, c'est joli. Alors, avec moi, alors.
Puis un autre jour, alors que les petites filles et leurs mamans se promènent en forêt parce que le temps est magnifique, elles rencontrent une enfant pauvre. Elle habite avec sa mère dans une hutte de bûcherons abandonnée. Aussitôt, Camille, Madeleine, Marguerite et Sophie lui proposent leur goûter. Elle répond qu'elle préfère qu'elle le donne à sa maman qui est malade.
Maman est malade.
Puis elle explique qu'elles sont dans la misère depuis que son père a disparu en mer. Alors, comme Madame de Rosebourg a, elle aussi, un mari qui a disparu, elle demande émue le nom du vaisseau et l'enfant répond...
La Sibylle.
Alors Madame de Rosebourg pousse un cri parce que son mari était justement le capitaine de ce bateau. Elle va trouver la maman malade et elle lui dit qu'elle ne doit plus être inquiète pour son avenir et celui de sa fille et qu'elle fait immédiatement envoyer une charrette pour les ramener au château de Fleurville et que là, elles seront logées et elles auront le nécessaire. Alors Françoise,
la mère,
et Lucie,
la fille,
s'installent et sont à l'abri du besoin. Puis un autre jour... Les petites filles présentent une pièce de théâtre et on danse jusqu'à 11h du soir après un grand dîner qui réunit tous les amis, les voisins et les villageois. C'est alors qu'on surprend cette conversation.
Oh Dieu que j'ai chaud, ma chemise est trempée. Et moi donc, ma robe est toute mouillée de sueur.
Oh que j'ai mal aux pieds.
Je n'en puis plus. À la dernière contredanse, mes jambes ne voulaient plus remuer.
Camille, as-tu vu ce gros bonhomme au ventre rebondi qui a été roulé dans un galop ?
Oui, il était bien drôle. Il sautait, il galopait tout comme s'il n'avait pas eu son gros ventre à traîner.
Et ce grand maigre qui sautait si haut qu'il a accroché le lustre ?
Oui. Il a manqué de prendre feu, ce pauvre maigre. C'est qu'il aurait brûlé comme une allumette.
Et as-tu remarqué cette petite fille prétentieuse qui faisait des mines et qui était si ridiculement mise ?
Non, je ne l'ai pas vue.
Elle avait une robe grise avec de grosses fleurs rouges.
Ah oui, je vois ce que tu veux dire, Sophie. C'est une pauvre ouvrière, très timide et qui n'est pas du tout prétentieuse.
Bah, par exemple, si elle ne l'est pas, je ne sais qui le sera. Et cette autre qui avait une robe de mousseline blanche chiffonnée avec des nœuds d'un bleu passé qui traînaient jusqu'à terre, trouves-tu aussi qu'elle n'était pas affectée ?
Voyons, ne disons pas de mal de tous ces pauvres gens qui se sont habillés chacun comme il l'a pu, qui se sont amusés et qui ont contribué à nous amuser.
Mon Dieu, comme tu es sévère, est-ce qu'il est défendu de rire un peu des gens ridicules ?
Non, mais pourquoi trouver ridicules des gens qui ne le sont pas ?
Si tu les trouves bien, ce n'est pas une raison pour que je sois obligée de dire comme toi.
Sophie, tu vas te fâcher tout à fait si tu continues sur ce ton.
Il n'est pas question de se fâcher. Je dis seulement que je trouve Camille on ne peut plus ennuyeuse avec sa perpétuelle bonté. Jamais elle ne rit de personne, jamais elle ne voit les bêtises et les sottises des autres.
C'est bien heureux pour toi.
Que veux-tu dire par là ?
Je veux dire, mademoiselle, que si Camille voyait les sottises des autres et qu'elle en riait, elle verrait souvent les vôtres et que nous ririons tout à vos dépens.
Je m'embarrasse peu de ce que tu dis. Tu es trop bête.
Eh bien, qu'est-ce que j'entends ? On se dispute par ici ?
C'est Marguerite qui me dit des sottises.
Il me semble que lorsque je suis entrée, c'était vous qui en disiez à Marguerite.
C'est-à-dire, je répondais seulement, mais c'est elle qui a commencé.
C'est vrai, Elisa. Je lui ai dit qu'elle disait des sottises. J'avais raison, puisqu'elle a dit que Camille était ennuyeuse.
Mes enfants, est-ce ainsi que vous finissez une heureuse journée, en vous disputant et en vous injuriant ?
Pardon, Sophie.
Pardon, Marguerite. Pardon, Camille.
Puis les petites filles s'embrassent et se déshabillent, font leurs prières et vont se coucher. Il leur arrive aussi beaucoup d'autres aventures au château de Fleurville. Mais il est temps pour nous de savoir qui était réellement Sophie avant d'être avec Madame Fichini.
Vive maman !
De baiser, je la mange.
Vive maman !
Elle est notre bon ange.
On remonte le temps. Dans les malheurs de Sophie, Sophie a 3 ans et elle vit seule avec sa mère, Madame de Réan, parce que son papa travaille à Paris. D'ailleurs, un jour, il lui envoie une poupée de cire en cadeau et la petite fille est tellement impatiente d'ouvrir le colis qu'elle manque de tout casser.
Ma bonne, venez vite ouvrir une caisse que papa m'a envoyée de Paris. Je crois que c'est une poupée de cire car il m'en a promis une.
Où est la caisse ?
Dans l'antichambre ! Venez vite, ma bonne, je vous en supplie !
Sophie aperçut la tête blonde et frisée d'une jolie poupée de cire. Elle poussa un cri de joie et voulut saisir la poupée qui était encore couverte d'un papier d'emballage.
Prenez garde, ne tirez pas encore, vous allez tout casser. La poupée tient par des cordons.
Cassez-les, arrachez-les. Vite, ma bonne, que j'ai ma poupée.
Puis, comme Sophie pense que sa poupée a froid, elle la réchauffe sans écouter sa maman qui l'avertit qu'elle va fondre et la poupée exposée au soleil perd ses yeux. Ensuite, comme Sophie pense que sa poupée a besoin d'une bonne toilette, elle la savonne et elle perd ses couleurs et elle devient fade et laide. Ensuite, comme Sophie veut qu'elle frise, elle lui brûle les cheveux avec un fer trop chaud et la poupée devient chauve. Ensuite, comme Sophie veut faire son éducation, elle lui fait faire des exercices et la suspend à une ficelle et elle lui casse un bras. Ensuite, comme Sophie lui fait un bain de pied, ses jambes fondent. Alors la poupée est vraiment affreuse et tous les enfants se moquent d'elle et Sophie ne l'aime plus. Enfin, elle veut lui apprendre à monter aux arbres et elle la met sur une branche et la poupée tombe et se casse en 1000 morceaux. Alors, Sophie l'enterre et convie ses amis à la cérémonie. Puis c'est le début d'une longue série de bêtises. Elle en a fait une 15aine, rien ne l'arrête. Nous n'en retiendrons que 6.
Première bêtise.
Un jour, Sophie est tentée de marcher sur de la chaux vive. Mais sa maman le lui interdit parce que la chaux brûle et que c'est très dangereux. Mais Sophie, qui est têtue, se dit
« J'irai tout de même, cela m'amuse et j'irai. »
On la voit qui pose un pied dessus, puis un autre, et elle se retrouve enfoncée jusqu'à mi-jambe. Alors, comme elle ne peut plus bouger, elle crie, et un maçon arrive et l'enlève et la met par terre. La bonne accourt, suivie de sa mère, qui lui explique que si elle n'avait pas été punie par la frayeur qu'elle vient d'avoir, elle la fouetterait.
Deuxième bêtise.
Après lui avoir offert une poupée, son père lui fait un autre cadeau, un couteau en écaille. Sophie coupe tout avec, du pain, des pommes, des biscuits et des fleurs, et même des poissons rouges. Pour s'amuser, un jour qu'elle est seule, elle décide de saler les poissons que sa maman adore et qu'elle a mis dans une cuvette pleine d'eau avec du sable. Bien sûr, une fois les poissons à l'air, ils se tordent de douleur, puis Sophie les découpe en morceaux pour essayer son couteau. Quelle n'est pas sa surprise quand elle se rend compte qu'elle les a tués. Alors, comme elle est embarrassée, elle les remet dans la cuvette et dit à sa mère qu'ils se sont battus.
Ils se sont battus ?
Quand Madame de Réan s'en aperçoit, elle accuse un domestique. Alors Sophie se dénonce et sa maman lui explique que comme elle a avoué, elle sera clémente et qu'elle ne lui fera pas de reproches.
Troisième bêtise.
Un autre jour, alors que Sophie est dans sa chambre, en compagnie de son cousin Paul, elle s'amuse à attraper une abeille et dit qu'elle veut la tuer pour toutes les piqûres qu'elle a faites. Alors, elle la découpe en morceaux avec son couteau à écailles. Madame de Réan, la voyant faire, est horrifiée et lui dit qu'elle est méchante et qu'elle fait souffrir cette bête malgré ce qu'elle lui a déjà dit quand elle a salé et coupé ses pauvres petits poissons. Sophie dit qu'elle a oublié. Mais sa mère ne la croit pas. Pour la punir, elle oblige sa fille à porter un collier composé des morceaux de l'abeille en précisant
« Jusqu'à ce qu'il tombe en poussière. »
Quatrième bêtise.
Un autre jour, comme Sophie est coquette, elle décide de friser ses cheveux pour ressembler à Camille. Alors, un après-midi pluvieux, elle sort pour mettre sa tête sous une gouttière parce qu'elle a entendu dire que l'eau fait friser les cheveux. Puis elle s'essuie avec son mouchoir et tombe, nez à nez avec sa maman, qui la trouve tellement ridicule qu'elle éclate de rire. Puis elle lui dit qu'elle dînera comme ça, avec sa robe trempée. C'est alors que son père, Monsieur de Réan, apparaît. Il demande
« Que signifie cette mascarade ? Nous ne sommes pas Mardi Gras. »
Paul aussi est présent.
« Ce que c'est que d'être coquette ? On veut se rendre jolie et l'on se rend affreuse. »
Ma pauvre Sophie, va vite te sécher, te peigner et te changer. Si tu savais comme tu es drôle, tu ne voudrais pas rester 2 minutes comme tu es.
Non, Paul. Elle va dîner avec sa belle coiffure en l'air et avec sa robe pleine de sable et d'eau.
Oh, ma tante, je vous en prie, pardonnez-lui et permettez-lui d'aller se peigner et changer de robe. Pauvre Sophie, elle a l'air si malheureuse.
Je fais comme Paul, cher ami, et je demande grâce pour cette fois. Si elle recommence, ce sera différent.
Je vous assure, papa, je ne recommencerai pas.
Pour faire plaisir à votre papa, mademoiselle, je vous permets d'aller dans votre chambre et de vous déshabiller. Mais vous ne dînerez pas avec nous. Vous ne viendrez au salon que lorsque nous serons sortis de table.
Oh, ma tante, permettez-lui de...
Non, Paul, ne me demande plus rien. Ce sera comme je l'ai dit. Allez, mademoiselle.
Cinquième bêtise.
Puis un jour, c'est l'anniversaire de Sophie. On est le 19 juillet et elle a 4 ans. Elle est impatiente d'avoir le joli cadeau que lui a fait sa maman. Mais quelle n'est pas sa surprise quand elle découvre que c'est un livre. En effet, Sophie ne sait pas encore lire, elle est embarrassée. Alors sa maman lui explique qu'il est joli et qu'il y a écrit dessus « Les arts » et qu'elle est sûre que ça l'amusera. Sophie l'ouvre. Mais elle n'arrive pas à tourner les pages, elle est étonnée. Et sa maman se met à rire et lui dit que c'est un livre spécial qui ne s'ouvre que lorsqu'on appuie le pouce sur le milieu de la tranche. Elle lui montre. Et la petite fille explose de joie. En réalité, c'est une charmante boîte de couleurs, avec des pinceaux et des godets et des petits cahiers pleins d'images à peindre.
Que c'est beau !
Sophie remercie sa maman. Puis sa maman lui dit aussi qu'à 2 heures, son cousin Paul et ses amis, Camille et Madeleine, viendront fêter son anniversaire. Alors Sophie demande l'autorisation de préparer le thé. Mais sa maman refuse, parce qu'elle craint qu'elle ne se brûle et qu'elle ne répande de la crème partout. Comme d'habitude, elle n'écoute rien. Et on la voit qui prend de l'eau dans l'assiette du chien et qui la verse dans la théière. Puis elle prend un morceau de blanc qui sert à nettoyer l'argenterie et elle le verse dans le pot de crème qu'elle remplit aussi avec l'eau du chien. Puis elle casse de la craie en petits morceaux et elle la met dans la sucrière. Quand tout est prêt, elle dit en boucle que j'ai de l'esprit.
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 J'ai de l'esprit.
Ses amis arrivent. Sophie leur montre son cadeau et quand ils ouvrent le livre, ils sont aussi surpris et tout le monde rit. Puis ils font des jeux et c'est l'heure du thé.
Asseyez-vous tous autour de la table. Là, c'est bien. Donnez-moi vos tasses que j'y mette du sucre. À présent, le thé, puis la crème. Buvez maintenant.
C'est singulier. Le sucre ne fond pas.
Mélange bien, Madeleine, il fondra.
Mais ton thé est froid.
C'est parce qu'il est fait depuis longtemps.
Ah, quelle horreur! Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas du thé, cela.
C'est détestable. Ah, cela sent la craie.
Que nous as-tu donné là, Sophie? C'est détestable, dégoûtant.
Vous trouvez?
Comment si nous trouvons? Mais c'est affreux de nous jouer un tour pareil. Tu mériterais que nous te fassions avaler ton détestable thé.
Oh, vous êtes si difficile que rien ne vous semble bon.
Avoue, Sophie, que sans être difficile, on peut trouver ton thé très mauvais.
Quant à moi, je n'ai jamais goûté à quelque chose d'aussi mauvais.
Avale donc. Avale, tu verras si nous sommes difficiles.
Ah, laisse-moi! Tu m'ennuies!
Nous sommes difficiles. Ah, tu trouves ton thé bon? Bois-le donc, ainsi que ta crème.
Que se passe-t-il donc?
Ah, je vois que c'est Sophie et Paul qui se seront disputés comme à l'ordinaire. Camille et Madeleine auront voulu les empêcher de se battre. J'ai deviné, n'est-ce pas, ma petite Camille?
Oui, madame.
Sophie a voulu nous faire boire un thé tellement détestable que nous avons eu mal au cœur en le goûtant. Et quand nous nous sommes plaints, elle nous a dit que nous étions trop difficiles.
Où avez-vous pris cette horreur de prétendue crème, mademoiselle?
Je l'ai faite, maman.
Vous l'avez faite? Et avec quoi? Répondez.
Avec le blanc argenterie et l'eau du chien.
Et votre thé, qu'est-ce que c'était?
Des feuilles de trèfle et l'eau du chien.
Voilà un joli régal pour vos amis. De l'eau sale et de la craie. Vous commencez bien vos 4 ans, mademoiselle. Je vous aurais envoyé dîner dans votre chambre si je ne craignais de gâter le plaisir de vos petites amies qui sont si bonnes qu'elles souffriraient de votre punition.
Alors, en s'en allant, on entend les mamans rire du ridicule régal inventé par Sophie et les enfants se réconcilient et vont à la chasse aux papillons dans le jardin.
6e bêtise.
Le lendemain, sa maman lui dit que maintenant qu'elle a 4 ans, elle peut l'accompagner lors de sa promenade du soir dans le bois, mais qu'elle devra bien la suivre pour ne pas se perdre. Paul se joint à elle avec plusieurs chiens. Au bout d'un kilomètre, Sophie tombe sur des fraises et s'arrête pour les cueillir. Elle invite Paul à faire de même. Il refuse parce qu'il craint de ne pas retrouver son chemin. Et Sophie le traite de Paul Tron en se goinfrant. Soudain, les chiens ont l'air inquiets. Et Madame de Réan aperçoit au travers des feuilles des yeux brillants et féroces. C'est un loup. Aussitôt, elle se retourne et constate que Sophie n'est plus là. Paul explique qu'elle mange des fraises en arrière. Alors Madame de Réan panique et rebrousse chemin, puis elle se met à courir de toutes ses forces. Quand elle aperçoit Sophie, celle-ci mange tranquillement, mais un loup énorme apparaît et bondit sur la petite fille et lui mord le jupon. Heureusement, les chiens qui courent vite attaquent la bête féroce et c'est la mêlée. Puis d'autres loups arrivent en renfort et les chiens redoublent d'efforts pour protéger leur maîtresse et les enfants. La bataille est terrible. Puis les chiens couverts de sang ont le dessus et les loups battent en retraite. Madame de Réan a tellement peur qu'elle tremble sur ses jambes. Elle n'a pas la force de gronder Sophie. Elle dit seulement ça.
Sophie, crois-tu que j'ai eu raison de te défendre de t'arrêter?
Sophie demande pardon et s'excuse d'avoir traité Paul de Paul Tron. Mais Sophie ne fait pas que des bêtises. À la fin des malheurs de Sophie, elle apparaît même comme une petite fille avisée et rassurante et volontaire. Un jour, Paul lui confie qu'il a surpris une conversation entre leurs deux mamans concernant un voyage aux Amériques. Alors Sophie imagine qu'elle y verra...
Des tortues.
Et Paul, des oiseaux superbes.
Corbeaux rouges, oranges, bleus, violets.
Pas comme les affreux corbeaux noirs qu'on voit en France. Ils parlent aussi des sauvages qui habitent là-bas. Puis ils aperçoivent leur maman qui sont assises sur un banc. Elles pleurent. Les enfants s'approchent et Madame de Réan explique qu'elles sont tristes de quitter leurs parents, leurs amis et leurs terres et leurs châteaux pour aller en Amérique. En effet, un certain Monsieur Ficini, qui vivait là-bas, vient de mourir. Il n'a pas de parents et il lègue toute sa fortune aux deux familles sous condition qu'ils traversent l'Atlantique pour recevoir leur héritage. Sophie console sa maman en lui disant que...
Si ce n'est pas pour toujours, ce n'est pas grave.
Et qu'il ne faut pas pleurer pour ça. Sa maman lui répond...
Ce sera pour 1 ou 2 ans.
Le jour du départ, on voit les deux enfants et leurs parents qui montent dans une voiture attelée de 4 chevaux de poste et qui disent au revoir aux domestiques. Après s'être arrêtés 1 heure en route pour déjeuner, ils arrivent à Paris, où ils restent 8 jours, le temps d'acheter tout ce qui est nécessaire pour ce long voyage. Puis ils partent pour Le Havre, où ils embarquent. Quelques jours plus tard en mer, Paul dit à Sophie qu'il sera marin quand il sera grand et lui demande si elle aimerait venir avec lui. Sophie répond qu'elle ne veut pas quitter sa maman et qu'elle restera toujours avec elle.
Vive maman!
De baisers.
Je la mange.
Vive maman.
Elle est notre bon ange.
Dans le livre Les Vacances, on retrouve Sophie au château de Fleurville. Mais elle a beaucoup changé. Les années ont passé et elle a 9 ans. Elle n'est plus impertinente et désobéissante et rebelle. Voilà, on dirait qu'elle est devenue sage. Mais cette sagesse est teintée d'une grande angoisse.
Pourquoi ?
La petite orpheline qu'elle est, nous avons appris dans Les Petites Filles Modèles qu'elle vivait avec une belle-mère méchante, puis dans Les Malheurs de Sophie qu'elle avait vécu avant heureuse avec sa gentille maman, va enfin nous dévoiler sa vraie vie. Oui, Sophie va enfin se confier et révéler à tous ses amis et à Madame de Fleurville la vérité sur elle. Alors nous allons apprendre comment sont morts ses parents et comment elle a survécu à ce drame en essayant d'oublier cette tragédie. Quand les vacances commencent, Sophie se sent très seule. En effet, Camille, Madeleine et Marguerite accueillent leurs cousins pour l'été, les retrouvailles sont joyeuses. Les enfants crient leur bonheur et s'agitent en s'embrassant sur le regard affectueux des mamans. Mais comme Sophie n'a pas de cousin à embrasser, elle est triste. Alors Camille la console en lui disant qu'elle est sa sœur et que sa maman est sa maman. Sophie l'embrasse et ne répond pas. Elle ne trouve pas de mots pour exprimer sa détresse. C'est un profond silence qui l'envahit. Le lendemain, ça va mieux. Et Sophie fait des cabanes de bois avec les autres enfants. Et les jours suivants, tout le monde pêche à la ligne, va à la chasse aux papillons et joue avec Biribi, le chien de garde de Madame de Fleurville.
Qui est tellement fort qu'il est capable de se battre avec des ours.
Puis un jour, alors que les petites filles et les petits garçons sont dans une forêt, ils rencontrent un inconnu au visage brûlé par le soleil qui sauve un des cousins en tuant une vipère qui s'apprêtait à le mordre. Alors il est accueilli au château et il raconte son histoire. S'il était dans la forêt, c'est parce qu'il cherchait sa fille et son épouse qui le croyaient disparu en mer. La peau de son visage est ainsi parce qu'il a été marin et qu'en pleine mer, les rayons du soleil font bronzer. Sophie ne cesse de le fixer du regard. Pendant qu'il explique que son bateau a fait naufrage à cause d'une tempête et qu'il a échappé de peu à une mort certaine, Sophie se remémore sa voix. Elle l'a déjà entendue, mais là encore, elle n'ose pas parler tellement elle est émue. Alors l'homme s'adresse à elle et tout le monde est stupéfait.
Mademoiselle, pardon, mademoiselle, mais Vous n'êtes pas Mamselle Sophie de Rayan ?
Oui, c'est moi. Je suis Sophie. Je crois aussi vous reconnaître, mais il y a si longtemps. Si longtemps. N'êtes-vous pas le Normand ? Ah oui, je me souviens, le Normand.
C'est bien moi, mademoiselle. Et comment avez-vous échappé au naufrage ? Je vous croyais perdu avec votre papa.
Papa m'a sauvée. Je ne sais plus comment. Je ne sais pas non plus ce qu'est devenu mon pauvre cousin Paul qui était resté près du capitaine.
Oh, mademoiselle de Réan, que je suis donc heureux de vous retrouver. Qui est-ce qui m'aurait dit que cette mademoiselle Sophie, que je croyais au fond de la mer, était pleine de vie et de santé dans mon beau pays, dans ma chère Normandie.
Les petites filles et les petits garçons sont abasourdis.
Sophie connaît un marin ?
Sophie a fait naufrage ?
Et Sophie ne s'appellerait pas Sophie Fichini, mais Sophie de Réan ?
Que cette histoire est compliquée, c'est incroyable !
Alors Sophie respire un grand coup, ouvre la bouche et dit que quand c'est arrivé, elle avait 4 ans, et que depuis elle avait tout oublié, jusqu'à l'arrivée de cet homme. Voilà le voyage en mer que l'homme évoque, est celui que fait Sophie à la fin du livre « Les malheurs de Sophie » quand elle embarque au Havre avec ses parents, son cousin Paul et les parents de celui-ci. Elle et ce marin étaient donc sur le même bateau.
Mais que s'est-il passé ?
C'est quoi ce naufrage ?
Il est temps pour Sophie de raconter son histoire.
Depuis 2 jours, il faisait un vent terrible. Tout le monde avait l'air inquiet sur le bateau. Personne ne s'occupait plus de Paul ni de moi.
Qui est ce Paul dont tu parles ?
Mon cousin. Maman me tenait près d'elle. Ma tante gardait aussi Paul. Quand tout à coup, j'entendis un craquement affreux. En même temps, il y eut une secousse si forte que nous tombâmes tous à la renverse. Puis j'entendis des cris horribles. On courait, on criait, on se jetait à genoux. Papa et mon oncle coururent sur le pont. Maman et ma tante les suivirent. J'entendis qu'on criait « Les chaloupes à la mer !» Mon papa courait et il voulut sauter avec moi dans une chaloupe où étaient maman, ma tante et mon oncle. Mais il n'en eut pas le temps. La chaloupe partit. Je criais « Maman ! Maman, attendez-nous !» J'entendais crier « Sophie ! Paul ! Mon enfant, mon mari !» Mais cela ne dura pas longtemps, car tout d'un coup, une grosse vague vint les couvrir. J'entendis un affreux cri, puis je ne vis plus rien. Maman était disparue. Tous avaient été engloutis. Cette nuit, je me suis souvenue de tout cela.
Pauvre Sophie. Comment as-tu pu te sauver ?
Je ne sais pas du tout comment a fait papa. J'appelais Paul et je pleurais. Puis les vagues nous ont entraînés. Je me suis endormie et je ne me souviens plus bien de ce qui est arrivé.
Mais tout cela ne nous explique pas pourquoi tu t'appelles Fichini au lieu de Réan.
J'ai oublié beaucoup de choses parce que papa m'a défendu de jamais lui parler de ce naufrage, de pauvre maman et de lui faire aucune question sur son mariage avec ma belle-mère. Mais en rappelant mes souvenirs, voici ce que j'ai trouvé. Quand nous sommes arrivés en Amérique où nous allions, nous avons demeuré chez un ami de papa, Monsieur Fichini, qui était mort, mais j'ai entendu parler devant moi d'un testament par lequel il faisait don à papa de toute sa fortune, à condition qu'il prendrait le nom de Fichini et qu'il garderait chez lui et n'abandonnerait jamais une orpheline que Monsieur Fichini avait élevée. Papa était si triste qu'il ne s'occupait pas beaucoup de moi. Cette orpheline, qui s'appelait Mademoiselle Fedora, soignait beaucoup papa et me témoignait aussi beaucoup d'amitié. Quelque temps après, papa l'a épousée et alors elle a changé tout à fait de manière. Elle avait des colères contre papa, qui la regardait de son air triste et s'en allait. Avec moi, elle était aussi toute changée. Elle me grondait, me battait. Un jour, je me suis sauvée près de papa. J'avais les bras, le cou et le dos tout rouge des coups de verge qu'elle m'avait donnés. Jamais je n'oublierai le visage terrible de papa quand je lui dis que c'était ma belle-mère qui m'avait battue. Il sauta de dessus sa chaise, saisit une cravache qui était sur la table, courut chez ma belle-mère, la saisit par le bras, la jeta par terre et lui donna tant de coups de cravache qu'elle hurlait plutôt qu'elle ne criait. Quand il la laissa se relever, Elle avait un air si méchant qu'elle me fit peur. « Tous les coups que vous m'avez donnés, s'écria-t-elle, je les rendrai à votre fille. Chaque fois que vous oserez la toucher pour la maltraiter, je vous cravacherai comme je l'ai fait aujourd'hui, madame, répondit papa. Il sortit, m'emmenant avec lui. Quand il fut dans sa chambre, il me prit dans ses bras, me couvrit de baisers, pleura beaucoup, me répéta plusieurs fois « Pardonne-moi, mon enfant, ma pauvre Sophie, de t'avoir donné une pareille mère. Oh, pardonne-moi, je la croyais bonne et douce, je croyais qu'elle te rendrait heureuse, qu'elle t'aimerait comme t'aimait ta pauvre maman. » Mais dans la nuit, il fut pris d'un vomissement de sang, à ce que m'ont dit les domestiques, et il mourut le lendemain, me tenant dans ses bras et me demandant pardon. Depuis ce malheureux jour, vous ne pouvez vous figurer combien je fus malheureuse. Ma belle-mère tint la promesse qu'elle avait faite à papa et me battit avec une telle cruauté que tous les jours, j'avais de nouvelles écorchures, de nouvelles meurtrissures. Alors elle répétait « Allez, mademoiselle, allez vous plaindre à votre papa à présent. »
« Allez, mademoiselle, allez vous plaindre à votre papa à présent. »
Quelle histoire sordide!
Pauvre Sophie,
comme elle n'a pas eu de chance.
Alors tout devient clair. Sophie a été rebelle pendant toutes ces années parce qu'elle était maltraitée par Madame Fichini, mais aussi parce qu'elle a vu ses parents mourir sous ses yeux. Alors elle avait peur d'aimer les autres. Elle pensait que les gens qu'on aimait pouvaient disparaître comme ses parents, et elle se protégeait en étant colérique et parfois agressive. Comme elle a souffert pendant toutes ces années. Mais les occupants du château de Fleurville ne sont pas au bout de leur surprise. Quelques jours plus tard, un homme et un garçon se présentent. C'est Monsieur de Rosebourg et Paul. Ils ont eux aussi survécu au naufrage du même bateau. Enfin, Madame de Rosebourg retrouve son mari et Marguerite son papa. Et Sophie a enfin un cousin, comme toutes les autres petites filles. C'est merveilleux. On dirait que les hommes de ces étranges familles, que les petites filles et leurs mamans croyaient morts, ressuscitent en même temps. En effet, le marin de tout à l'heure n'est autre que le mari de Françoise et le père de Lucie, qui errait comme deux âmes en peine dans la forêt jusqu'à ce que Madame de Rosebourg leur donne l'hospitalité. Alors tout le monde s'embrasse en riant et en pleurant et Sophie présente Paul. Marguerite dit au garçon qu'elle n'a jamais entendu parler de lui et Paul est étonné et Sophie dit qu'elle ne l'avait pas oublié mais qu'il dormait dans son cœur et qu'elle n'osait pas le réveiller et qu'à cause de ça elle était devenue égoïste et n'a pensé qu'à elle pendant toutes ces années. Alors un des cousins dit à Paul qu'il ne faut pas croire Sophie parce qu'elle est bonne et qu'elle a un défaut, elle dit toujours du mal d'elle-même. Le lendemain, les enfants se réunissent autour de Paul pour entendre son histoire. Voilà, après celle du marin et celle de Sophie, c'est à son tour. Alors il donne sa version du naufrage. Il raconte qu'après que la chaloupe des deux mamans fut engloutie, il ne put partager le baquet de son oncle et de Sophie parce qu'il était trop étroit. Alors il fut confié au commandant Rosebourg et aux Normands qui firent un radeau où ils chargèrent un tonneau d'eau et des provisions. Très vite, Paul ne vit plus son oncle et Sophie parce que les vagues étaient trop hautes. Puis il dit qu'à un moment, le vent les a poussés à terre et que le radeau entra dans une eau tranquille et qu'une fois sur la terre ferme, sa première pensée alla à ses pauvres parents, à son oncle et à Sophie, et qu'il ne put s'empêcher de pleurer en pensant aux dernières heures qu'ils avaient passées sur la Sibylle. Puis il raconta encore comment un jour, il rencontra des Indiens. Ils étaient accueillants, hospitaliers. Il apprit leur langage et il leur apprit aussi le français. Ce qui fait que très vite, les naufragés et les Indiens finirent par se comprendre et vivre ensemble.
Dis-nous quelque chose en sauvage, Paul, je t'en prie.
Pelka mihane kuruglu.
Oh, que c'est joli, que c'est doux. Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire, je ne te quitterai jamais, ami de mon cœur.
Prese Nicolice nane apra.
Non, mon père, non, jamais, je vous le jure.
Qu'est-ce que papa a dit ?
Mon père a dit, quand tu seras grand, tu nous oublieras. Et moi, je réponds et je jure que je ne vous quitterai et que je ne vous oublierai jamais. Me séparer de vous, ce serait souffrir ou mourir.
Mon bon Paul, comme je t'aime.
Mais qu'est devenue Madame Ficini ?
Elle est de retour d'Italie. Elle va très mal. Sa santé est mauvaise et son mariage avec le comte Blagovski est un échec parce qu'il n'était pas un noble, mais un galérien évadé et qu'elle s'est fait avoir. Alors nous sommes soulagés parce que Madame Ficini meurt enfin. Oui, la méchante femme disparaît de la vie de Sophie. À cette occasion, on apprend que Sophie lui pardonne. Alors enfin, elle va pouvoir être heureuse et se libérer des infortunes de la vie. Enfin, Sophie va pouvoir devenir une jeune fille, puis une femme, et ensuite une mère de famille, et avoir des enfants avec un bon mari, et peut-être même des petits-enfants, comme la comtesse. Et pourquoi pas devenir écrivain, comme la comtesse. Mais elle n'écrirait pas des histoires pour la jeunesse. Plutôt des poèmes, à cause de sa profonde angoisse, qui ressemblerait à de la mélancolie. Ou alors peut-être qu'elle deviendra artiste. En souvenir du cadeau d'anniversaire de sa maman, un livre qui est une boîte avec marqué dessus « Les arts ».
La porte de la chambre de Madame Ficini s'ouvrit.
Sophie fit un effort sur elle-même pour entrer et elle se trouva en face de Madame Ficini, non pas grasse, rouge, pimpante, comme elle l'avait quittée 2 ans auparavant, mais pâle, maigre, abattue. Humiliée.
Elle voulut se lever quand Sophie entra, mais elle n'en eut pas la force. Elle retomba sur son fauteuil et cacha son visage dans ses mains.
Sophie vit des larmes couler entre ses doigts.
Touchée de ce témoignage de repentir, elle approcha, prit une de ses mains et lui dit simplement
« Ma mère ?»
Dieu, depuis que j'ai fait mon malheur par cet abominable mariage, depuis surtout que j'ai compris toute l'horreur de ma conduite avec toi, Dieu m'a puni. Il a bien fait. Je suis bien, bien coupable. Sophie, ma pauvre Sophie que j'ai tant détestée, martyrisée, pardonne-moi. Oh, dis que tu me pardonnes pour que je meure tranquille.
De tout mon cœur, du fond de mon cœur, ma pauvre mère, ne vous désolez pas ainsi. Vous m'avez rendue heureuse en me donnant à Madame de Fleurville, qui est pour moi comme une vraie mère. J'ai été heureuse, et c'est à vous que je le dois.
Vive maman.
De baiser.
Je te mange.
Vive maman.
Elle est notre bon ange.
C'était Vive la comtesse, un texte inédit de Christophe Fiat.
Enregistré le 19 juillet 2014 au musée Calvet dans le cadre du Festival d'Avignon. En partenariat avec la SACD, avec Irène Jacob et les élèves du Théâtre National de Bretagne, Leslie Bernard, Laure Catrin, Julien de Rivaz, Mathias Jacquin, Chloé Maniscalco, Georges Slovic, Adèle Zouane, et la voix de Samuel. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, mixage, Claire Levasseur, Pierre-Henri. Sonorisation, Tanguy Le Corneau, Tahar Bouklifa. Maintenance technique, Jean-François Georges, David Anéas. Coordination technique, Guillaume Rialan, Jean-Christophe Perrin. Régisseuse du musée Calvet, Anne Bouchicot, Irène Sorel. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Laure Egoroff. Remerciements à Virginie Noël.